Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Fobodioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité.
Alinda Ouedraogo.
Madame, messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, cela fait 3 ans que Fahadou Cissé et Amar Baliman, membres de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina, trouvaient la mort dans des conditions non encore élucidées. Leurs camarades réclament justice. Et puis, lutte contre l'insécurité, l'Union européenne envisage de déployer 3 nouvelles missions militaires en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina, au Niger et dans le golfe de Guinée. Au Mali, le GENIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, bloque un axe routier du centre du pays depuis 1 semaine et empêche la desserte de plusieurs localités. Et puis aujourd'hui, 31 mai, célébrer la journée mondiale sans tabac. À l'occasion, nous recevons comme invité le professeur Georges Ouedraogo. Il est pneumologue à l'unité de sevrage tabagique du Burkina. Il nous parlera des dangers de cette autre forme de tabac qu'est la chicha. Voilà pour vos titres. Bienvenue pour cette édition. Le 31 mai 2022, cela fait 3 ans jour pour jour que Fahadou Cissé et Amar Baliman, membres de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina, trouvaient la mort dans des conditions non encore élucidées à l'entrée de la ville de Séba dans la province du Yaga. À l'occasion de l'anniversaire de ces assassinats, leurs camarades de l'ODJ, du CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communiqués et le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, donnent de la voix afin que justice leur soit rendue. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi à Ouagadougou. Je vous propose les détails dans cet élément signé Abdulaziz Zoulabou.
Le 31 mai 2019, alors qu'il se rendait à une rencontre avec le haut commissaire de la province du Yaga, Fahadou Cissé et Amar Baliman seront assassinés à environ 4 km de la ville de Séba. Tout porte à croire, selon les responsables de l'ODJ, qu'il s'agit d'une exécution politique au regard du combat que menaient ces derniers pour le bien-être des populations. Gabin Korbeogo est le président de l'ODJ.
Ils ont été assassinés parce qu'ils ont été assassinés pour leurs opinions. Voilà, c'est des camarades qui sont battus, comme on l'a dit, c'était des vrais combattants de la liberté, des gens qui étaient montaient fréquemment sur les barricades, organisaient les populations locales, donc autour de leurs préoccupations pressantes, et ils ont réussi à mener des grandes batailles à l'échelle régionale, et même au-delà. Voilà, et ils ont réussi aussi à arracher des grands acquis. Donc c'est au nom de cela que les camarades ont été assassinés. Donc c'est pour cela que nous disons que c'est des crimes politiques d'État. Voilà.
Depuis lors, plusieurs actions ont été engagées pour que la lumière soit faite sur cette affaire, sans grand succès. Gabin Korbeogo.
Jusqu'à ce jour, aucune avancée. Voilà. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu des tentatives de relance. L'avocat qui nous accompagne, le conseil donc, de la famille, a saisi, a recontacté le tribunal militaire parce que c'est des assassinats qui ont été commis dans une zone sous état d'urgence. Donc ça relève la compétence donc, du procureur militaire. Donc il a été recontacté, mais jusque-là, aucune avancée, on dit bien aucune, ni sur l'autopsie.
Le 18 mars 2022, 8 personnes ont été enlevées et exécutées à Fada par des éléments présentés comme des FDS et des VDP. Dans la commune de Gibo, le 22 avril 2022, 18 autres personnes ont été exécutées, toujours par des personnes présentées comme des éléments des FDS. Ce sont autant d'exécutions sommaires relevées et déplorées par les conférenciers du jour, qui appellent d'ailleurs à une prise de responsabilité de la part des autorités pour rendre justice à ces suppliciés, mais aussi pour éviter de telles situations dans l'avenir.
Justement, pour prévenir l'extrémisme violent chez les jeunes, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation mène des réflexions. Le dit ministère a tenu ce mardi à Ouagadougou sa première session 2022 du CACEM du ministère de l'Enseignement supérieur sous le thème « Faire des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche des canaux de prévention de la jeunesse estudiantine contre l'enrôlement à l'extrémisme violent et à la radicalisation » au Burkina Faso. Il a été question d'outiller ces institutions de l'enseignement supérieur afin de faire en sorte que les étudiants ne rejoignent l'idéologie de l'extrémisme violent. Le compte-rendu de Pierre Badoulou.
Le premier CACEM du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'est penché sur la crise sécuritaire au Burkina Faso. Comment procéder à plus de sensibilisation dans le milieu étudiantin contre l'enrôlement des groupes extrémistes, tel est l'enjeu majeur de ce premier CACEM du Mestre, d'où le thème « Faire des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche des canaux de prévention de la jeunesse étudiantine contre l'enrôlement à l'extrémisme violent et à la radicalisation au Burkina Faso ». Professeur Frédéric Ouattara, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.
Conformément au thème qui a été annoncé, vous êtes sans ignorer que notre pays traverse un moment d'insécurité et notre objectif est surtout de parler de comment est-ce que, en dehors du contexte militaire, comment est-ce que les universités et les centres de recherche qui sont du Burkina Faso peuvent contribuer au mieux à partir des échanges qui vont se dérouler, de trouver des solutions endogènes à notre problème afin d'éviter que nos étudiants qui, au sortir de ces universités, ne soient enrôlés dans le cadre du terrorisme qui nous concerne.
La lutte contre l'extrémisme violent n'est pas seulement que militaire, il faut alors multiplier et diversifier des actions dans plusieurs domaines, y compris au sein des universitaires. Pierre Nakoulouma, directeur général du Centre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.
Le choix de ce thème, c'est en lien avec l'actualité. Nous vivons une crise sécuritaire qui interpelle tout le monde. Donc, le CACEM ne pouvait pas ignorer cet aspect essentiel de la réalité du pays. Comme je l'ai dit dans mon introduction, il y a beaucoup de raisons. C'est pour ça que j'ai dit que la réponse à la crise sécuritaire ne peut pas être que militaire. Il y a bien des aspects sociaux qu'il faut analyser. Quand vous voyez des étudiants qui sont censés être la future crème du pays, qui se laissent avoir par l'extrémisme, c'est quand même difficile. Ça veut dire que l'institution universitaire est interpellée et doit jouer son rôle et ne pas laisser l'obscurantisme prendre le pas sur ce qui est rationnel.
Lors de ce premier CACEM 2022, le ministère a saisi l'occasion pour revenir sur le bilan de l'année écoulée 2021. Les performances ont été enregistrées. Le bilan est satisfaisant, mais des défis restent à relever quant au retard académique, l'insuffisance des infrastructures universitaires et mettre à la disposition des institutions éducatives universitaires des moyens adéquats.
Et puis cette information en bref, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, le colonel-major Moussa Diallo, a levé le couvre-feu sur la ville de Houndé. Dans un communiqué, le gouverneur de la région informe les populations de la ville de Houndé et environnement de la levée totale de la mesure de couvre-feu pour compter du lundi 30 mai à 0h, lit-on dans le communiqué. Le couvre-feu avait été instauré le 25 mai dernier à la suite de la crise née du mécontentement d'Orpailleur contre la société minière Houndé Gold Opération qui a fait au moins 2 morts. Diplomatie, eh bien, l'ambassadeur de l'Inde fait ses adieux au corps diplomatique. Après avoir passé 3 ans au Burkina, Vijay Singh Chauhan est en fin de mission avec plusieurs acquis engrangés en termes de coopération entre le Burkina et l'Inde. La cérémonie de revoir a eu lieu hier lundi à Ouagadougou, le compte-rendu de Valérie Guéry.
C'est une soirée d'honneur et de remerciement qui est organisée à l'endroit de l'ambassadeur plénipotentiaire de la République de l'Inde. Après 3 années de coopération entre les deux pays, Vijay Singh Chauhan fait ses adieux au corps diplomatique burkinabé. L'ambassadeur dit garder un bon souvenir d'amitié.
I have the good opportunity of meeting His Excellency,
the
President of Burkina Faso today, and he reiterated our
Nous avons parlé
concerns and our sentiments on further cooperation, and we hope this will be a good thing for moving the relations forward.
Et tout comme le Burkina Faso, l'Inde aussi fait face à ce problème de terrorisme. Et nous devons réfléchir à avoir des nouvelles idées et venir à bout.
Malgré ces difficultés rencontrées sur le plan sécuritaire et sanitaire par les deux pays, des acquis ont été engrangés en termes de coopération dans plusieurs domaines d'activité, à en croire la ministre des Affaires étrangères, Olivia Ramba.
Au titre des interventions notoires de l'Inde en faveur du peuple burkinabé, permettez-moi de citer le financement à hauteur de 50%, soit environ 500 millions de francs CFA, du projet de réalisation du barrage de Nangdo, dont le lancement officiel des travaux de construction est intervenu le 3 août 2021. Le ferme engagement de l'Inde à accompagner le Burkina Faso dans la gestion de la crise humanitaire qu'il rencontre. À ce sujet, des milliers de tonnes de riz ont été octroyées au Burkina Faso à titre de don et sont en attente de réception.
À l'issue de cette cérémonie, l'ambassadeur plénipotentiaire de la République de l'Inde a été exceptionnellement élevé officier de l'ordre de l'étalon.
Et puis la LONABE, l'autorité nationale burkinabé, a un nouveau directeur général en la personne de Désiré Thiamo Biga. Il remplace ainsi Patin Debanaza. La passation de charge a eu lieu lundi au siège de la LONABE à Ouagadougou. Moumouni Yaro pour le compte rendu.
Nommé en conseil des ministres le 18 mai dernier, Désiré Thiamo Biga a promis ce jour de son installation travailler en synergie avec l'ensemble du personnel pour l'intérêt des parieurs. Désiré Thiamo Biga.
Nous allons travailler en synergie d'action pour, premièrement, satisfaire notre clientèle, répondre aux attentes de notre clientèle en leur proposant des produits plus innovants. Il y a des chantiers déjà entamés. Nous allons poursuivre en synergie d'action avec l'ensemble du personnel. Nous n'allons pas seuls. Nous allons travailler à intensifier les actions de développement de la Loterie nationale burkinabé dans les efforts de développement de notre pays et de notre nation.
En 2 ans de commande, le directeur général sortant affiche sur son tableau un bilan positif. Patin Debanaza.
Les sentiments, c'est d'avoir pu faire quelque chose avec l'ensemble des collaborateurs. C'est l'occasion de féliciter les collaborateurs et inviter également les collaborateurs, les travailleurs de la LONABE à accompagner le nouveau directeur général pour plus de résultats, plus de performances au profit de la LONABE, au profit du pays et pour le bien-être de l'ensemble des populations. Parce que la LONABE, c'est un outil, c'est un instrument au service des populations.
Le nouveau directeur général Désiré Thiamo Biga est un homme de banque. Il était précédemment directeur commercial et de crédit à Fidelis Finance.
Omega Sport.
L'audience de l'affaire Sita Sangaré Aristide Bansi a repris ce matin au tribunal de grande instance Ouagadougou, mais elle a été renvoyée au rôle général, c'est-à-dire une mise en attente. Ce matin, aucune des deux parties ne s'est présentée à l'audience. L'ancien président de la FBS, Sangaré, accuse l'ancien footballeur Bansi de diffamation. Dans une vidéo début avril, ce dernier déclarait que certains anciens dirigeants opéraient des retenues de salaire sur des entraîneurs des équipes nationales. Le Burkina Faso affronte vendredi à 19h le Cap-Vert. Dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Arrivé dimanche à Marrakech au Maroc, les étalons ont effectué lundi une séance de décrassage. Aujourd'hui, le groupe est au complet à l'exception du défenseur Steve Yago, testé positif au Covid-19. Son arrivée est prévue dans la soirée. Je vous propose la réaction de l'entraîneur Hubert Velud à l'issue de la séance d'hier.
On a fait une séance de récupération, hein, décrassage avec des petites courses, des tout petits jeux d'entraînement. C'était vraiment l'objectif était uniquement de récupérer de la nuit du voyage, hein, comme vous l'avez fait, comme nous, vous avez vu, on n'a pas dormi, on a voyagé la nuit. Donc les choses sérieuses vont commencer demain avec deux entraînements bi-quotidiens, avec deux bons entraînements. C'est une journée très importante demain. Bien sûr que demain, faut s'attendre à beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de travail tactique, physique, travail complet demain. Et après-demain aussi, il y a deux gros journées de travail qui nous attendent. Mais ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y a des bonnes conditions d'entraînement. Il y a tout ce qu'il faut pour bien réussir. On est bien installé également. Ça, c'est très important pour la préparation du match.
Hors de chez nous au Mali, le GENIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, bloque un axe routier du centre du pays depuis mercredi. Le tronçon qui relie les villes d'Ouenza et de Gao dans les régions de Mopti et Gao est soumis depuis le 25 mai à un blocus djihadiste qui empêche la desserte de plusieurs localités comme Ambori ou Boni. Les autocars censés emprunter ce tronçon restent sastonnés et plusieurs centaines de voyageurs sont en attente depuis des jours, jusqu'à une semaine pour certains dans cette localité. Par crainte pour leur vie, les gens ont opté pour rester à Douenza en attendant, précise Amadou Al-Husseini Maïga, le coordonnateur national de l'ONG GRA-DP. Et justement, pour venir à bout de l'insécurité, l'Union européenne envisage de déployer 3 nouvelles missions militaires en Afrique de l'Ouest après la suspension de ses missions de formation au Mali et en République centrafricaine. Selon un document du Service européen pour l'action extérieure daté du 25 mai, le document révélé par E-Observer, un site d'information qui se concentre principalement sur la politique des institutions de l'Union européenne, précise que l'Union européenne souhaite installer ses missions au Niger, au Burkina Faso et dans l'un des pays côtiers du Golfe de Guinée. Une mission militaire au Niger devrait être la première à être déployée, étant donné que les autorités nigériennes ont déjà demandé à l'Union européenne de créer un centre d'excellence en matière de logistique et de maintenance dans les environs de Niamey. L'Union européenne souhaite aller au-delà de cette demande pour former, équiper et accompagner les forces armées nigériennes. Au Cameroun, 24 civils ont été tués et une soixantaine blessés dimanche par des séparatistes armés dans le sud-ouest anglophone au Cameroun en proie à un sanglant conflit, a déclaré mardi à l'AFP le maire de la localité. Des séparatistes ont attaqué avec des armes à feu dimanche le village d'Ubongi 2 à 560 km au nord-ouest de Yaoundé, près de la frontière avec le Nigeria, a déclaré Ekwale Martin, maire de la localité. Les séparatistes voulaient que les habitants leur versent chaque mois de l'argent. Ils ont refusé et c'est pour cela qu'ils ont été attaqués, a-t-il poursuivi.
La revue de presse.
Augmentation du prix du pain. Selon nos confrères de la presse écrite, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont des pays visionnaires. Ils ont supprimé des taxes d'importation de farine de blé. Les parutions du jour notent aussi une réorganisation sur l'échiquier politique en vue des futures échéances électorales au Burkina et au Nigeria. Le sommet de l'Union africaine est également sous les projecteurs des quotidiens. La revue de presse, c'est avec Asmao Daou.
Le pain retient toujours l'attention du confrère Le Quotidien en référence à son titre « Le vœu de bouclier contre l'augmentation du prix du pain, le paradoxe burkinabé ». Il rapporte que le gouvernement ivoirien a supprimé les droits de douane sur le blé importé et apporté un appui financier aux acteurs de la production de farine de blé. De même pour le Sénégal, que c'est une preuve que le Sénégal et la Côte d'Ivoire se soucient de leur population, contrairement au Burkina Faso où le gouvernement préfère augmenter le salaire des ministres comme pour dire au peuple « Débrouillez-vous ». Que ce n'est donc pas étonnant qu'aujourd'hui les Burkinabés n'ont que leurs yeux pour pleurer, écrit Le Quotidien dans sa parution du jour. L'Express du Faso se penche en politique. Il écrit entre ses lignes « Ne dit-on pas que la nature a horreur du vide et que l'habitude est une seconde nature ?» Il serait assez naïf de croire que les politiciens ont perdu de vue les échéances électorales à venir. Et l'ambition dans chaque camp est de triompher. Et ils s'organisent pour cela. Selon l'Express du Faso, sans aucun doute, la redistribution des cartes dans le landerneau politique burkinabé bat son plein et même au-delà de nos frontières, comme le titre citoyen Nigeria, le bal des prétendants. Le Quotidien d'État note que la prochaine élection présidentielle nigériane, prévue en 2023, déchaîne des passions. Les prétendants au trône se positionnent de part et d'autre. et du Nigeria, le doyen des quotidiens nous amène à Côte d'Ivoire. Son titre, Charles Blégoudé va enfin pouvoir rentrer à Abidjan. Mais le journal reste soucieux qu'il y ait une querelle fratricide autour du Gallinacé, dans la mesure où Gbagbo lui aussi ne fait pas mystère de son envie de prendre sa revanche, si du moins Ado ne plafonne pas à 75 ans l'âge limite de candidature comme on lui prête l'intention. Retour avec le pays qui, cette fois-ci, opine sur le sommet extraordinaire de l'UA en Guinée équatoriale, écrit-il. Malabo a-t-elle accouché d'une souris, s'interroge-t-il. Et il pense que tant que les dirigeants africains ne se montreront pas plus visionnaires, le continent demeurera dans la stagnation et dans l'insécurité permanente, tandis que le confrère aujourd'hui au Faso fait un peu plus fort. Qu'il faut du tramadol contre la bêtise humaine à propos du sommet UA, écrit-il, que depuis 2010, on compte plus d'une trentaine de coups d'État réussis ou avortés et un regain du terrorisme au Sahel. Ça signifie que ce sous-comité contre la bêtise humaine doit être vraiment ingurgité au tramadol, ce produit antalgique, pour lui administrer de la vigueur qu'on espère efficace.
C'est ici que prend fin ce journal, mis en onde par Edwige Tiendrebego, à la retransmission Facebook et Ibrahim Niaouné. Merci à vous de nous avoir suivis.
Radio Omega, l'info en direct.